Vous êtes beau? Vous êtes belle? Toutes, hein? Formidable. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est demander vraiment à l'Esprit Saint de nous toucher, parce que sinon, ce que je vais vous dire ne sert à rien. Donc on va demander à l'Esprit Saint de venir. On peut se lever? Seigneur Jésus, nous te demandons de venir par ton Esprit Saint au milieu de nous, Seigneur, de toucher nos cœurs, de nous rendre sensibles à ta voix, Seigneur, de nous rendre encore plus amoureux de toi, Seigneur.
Amen.
Parce qu'on sait que quand on va s'approcher de toi, eh bien on va, comment dire, ça va se communiquer en nous, et nous serons différents. Donc nous voulons que tu viennes ce matin, Seigneur, pour nous toucher et manifester ta grâce, et nous changer, Seigneur. Amen. Alors, il y a de ça un mois, j'ai fait venir Norbert et Chantal et Pascal et sa femme à la maison, parce que j'avais reçu quelque chose de Dieu. Je ne vous partagerai pas tout cette fois-ci, parce que, voilà, vers le mois d'octobre, on parlera d'une nouvelle vision, mais j'avais eu deux images. La première image, j'ai vu, alors ça va parler à Fredo, hein, le garagiste, j'ai vu une belle voiture. Tu sais, genre voiture américaine V6, là. Oui, un peu rouge. Bien. Alors, mais elle n'était pas si rouge que ça au départ, donc on l'a mise en état. Donc les petites mains se sont affairées pour la mettre vraiment bien en état. Hein. On l'a même customisée pour qu'elle soit jolie. Et puis, bien réparée. Alors le propriétaire, ce qu'il faisait, lui, ben, tous les dimanches, il venait, il rentrait dans son garage, en admiration devant la voiture, oh, elle est belle quand même, il s'assied, il tourne la clé, oh, le bruit du moteur, V6, vous vous rendez compte, hein, ça doit, hein, putain, bien, et puis après, il repartait, et puis le dimanche d'après, il faisait la même chose. Une voiture qui est très peu utilisée, qu'est-ce qui se passe, Fredo? Elle s'use autant que si on l'utilise. Donc, vous voyez, et puis elle s'use même peut-être un peu plus que si on l'utilise. Alors, le Seigneur nous dit, une voiture, c'est fait pour quoi? Pour rouler. Hein? Voilà, donc, le Seigneur nous disait, vous avez bien pris soin de vous. C'est le moment de sortir, c'est le moment de, voilà, de montrer. Deuxième chose intéressante, j'étais en train de lire l'évangile de Jean, et en lisant l'évangile de Jean, j'ai lu un passage sur ceux qui moissonnent et ceux qui sèment. Pas S-A-I-M-E, hein, parce qu'on sait qu'on sème, nous. Non, Seigneur, mais sème, S-E-M-E, hein, avec l'accent. Donc, et la récompense de ceux qui sèment est aussi grande que celle qui moissonne. Et le Seigneur nous disait, nous sommes une église qui semons beaucoup. Et nous disons, parce qu'on sème, beaucoup de gens témoignent autour d'eux. Et le Seigneur nous disait, cette année va être l'année de la moisson. Nous allons moissonner et nous allons être un peu dérangés. Parce que quand on moissonne, il y a des gens qui viennent, il faut s'occuper de ces gens-là. Donc c'est le temps de la moisson. Alors, à votre avis, quels sont les plus grands évangélisateurs ou évangélistes de l'Église? Bonne question, ben, je vais vous le dire. Je vais faire lever, d'abord, vous savez, ça fait 35 ans que je suis dans l'Église. Mes enfants, voilà. La première priorité d'évangélisation, c'est nos familles. Tous ceux qui se sont occupés de nos familles. Je ne sais pas si Hélène est là.
Elle est là?
Elle est avec les enfants, ben, vous faites comme si, bah, tiens, Loïc, lève-toi pour elle, toi aussi, tu t'es occupé des enfants, tu peux te lever. Voilà. C'est vrai que nos enfants sont au Seigneur grâce à deux choses. Grâce à l'Église, qui a pris soin d'eux, grâce aux colonies de vacances qu'Hélène a faites, nos enfants se sont convertis, maintenant ils servent Dieu. Alors, formidable, hein? Corinne, elle a fait les collettes pendant 20 ans. Irène, elle est où? Hein? Irène Bernacchia. Ouais, tu peux te lever? Cédric? Et tous ceux qui s'occupent des enfants maintenant, il y a, comment dire, c'est Olivier qui nous disait que nos enfants aussi ont servi d'exemple, et nos enfants sont occupés. Des Sarkis, je vous rappelle, hein, et bien occupés. Et maintenant, regardez les Sarkis, qu'est-ce qu'ils font? Formidable. Et les Sarkis sont occupés. Voilà, levez-vous tous ceux qui s'occupent des enfants, parce que vous êtes, et tous ceux qui sont en train de s'en occuper, hein, vous êtes les plus grands évangélistes, parce que ça représente des dizaines et des dizaines de jeunes maintenant qui servent Dieu et d'enfants qui sont, voilà. Et maintenant, j'aimerais que les parents, on va commencer d'abord par les parents de jeunes enfants tout petits. Levez-vous un peu, les enfants, hein, les petits, levez-vous. Voilà, formidable. Oh ben jeune, bon ben même tous les parents d'enfants, allez, hop. Tous les parents d'enfants,
tout le monde
se lève, voilà. Mais en attendant, c'est notre première responsabilité, et c'est extraordinaire. Vous savez, moi je peux parler en tant que papa et grand-père, c'est extraordinaire de voir nos enfants qui servent Dieu, non? Et dernièrement, j'ai eu mon petit Ethan qui est venu à la maison, il avait 4 heures de perte, il arrive, il voulait parler avec son grand-père. Et vous savez pas quoi, il m'a dit, ben, tu sais, dans le groupe de jeunes, Marguerite, on est en train de lire le livre Être assis, marcher, tenir ferme et discuter là-dessus. Pétard, je dis, mais tu te rends compte? Regarde, c'est le livre que j'ai lu, moi, pour me convertir. Eh, vous rendez compte, la roue, hein? C'est quand même extraordinaire. Donc Dieu est fidèle, et la première responsabilité qui est la nôtre, eh bien, c'est de conduire nos familles au Seigneur. Hein? Et il le fait. Donc vous êtes les plus beaux, les plus grands évangélistes. Et je bénis Dieu pour le travail qui a été fait et qui sera encore fait pour ceux qui sont là. Ça, c'est notre première responsabilité, de voir nos enfants servir Dieu et être bénis. Alors, vous savez que nous avons un héritage. Bon, normalement, l'héritage, c'est le testateur quand il meurt. On récupère l'héritage. Là, la différence... Pour nous, c'est que notre testateur, lui, il est mort, ouais, mais il est ressuscité. Bon, mais on a quand même un héritage. Hein. Mais pour qu'on ait cet héritage, il a dit, écoutez, au revoir la compagnie, il faut que je m'en aille. On va lire le verset, hein. Jean, chapitre 16, verset 7. Je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Bon, ce n'est pas nous qui les convaincons, hein. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Vous avez vu, hein. C'est lui. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Bon, vous voyez, le plus grand péché, ce n'est pas tous les péchés. Non, c'est... Il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et Norbert en a parlé hier avec le sacerdoce, il est venu au Père avec son propre sang. Et le jugement, alors nous on pense au jugement des pécheurs, ben non, regardez ce qui est écrit, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le jugement, c'est pour lui. En ce moment, nous sommes donc dans le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce. Le seul qui a la capacité de convaincre, c'est le Saint-Esprit, et sans l'assistance du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et l'élan missionnaire qui peut être le nôtre, et l'élan missionnaire qui peut être l'élan missionnaire de l'Église, ne peut être créé que par l'Esprit Saint. Et nous sommes entièrement dépendants de lui. Dans Actes chapitre 1, verset 8, on peut lire... Je vais vous faire rire. Normalement, les versets devaient être là, hein, mais le problème, c'est que j'ai enregistré les raccourcis et pas les textes. Donc, écoutez, retenez bien le texte. Ça, c'est pour la. Voilà, c'est l'informatique. J'utilise la tablette. Hein. Bon, j'ai vu, hein, là, franchement, hein, pour un vieux comme moi. Bon.
Je te félicite pas. Je vais te voir avec la Bible.
Alors. Elle est là. Bon. Alors, acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, pour les gens qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit ? Si vous pensez que c'est simplement pour l'exercice des dons spirituels et pour votre bien-être spirituel, on relit le texte. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est tout, point. Vous serez mes témoins. Alors, le Saint-Esprit en nous, quand on se convertit, on reçoit le Saint-Esprit en nous. C'est pour nous, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre soin spirituel. Le Saint-Esprit sur nous, c'est pour les autres. Nous sommes remplis, pas pour nous, nous sommes remplis pour les autres. Alors quand on voit un évangéliste arriver, qu'est-ce qu'ils vont encore nous dire, qu'est-ce qu'ils vont encore nous demander, ils vont essayer de nous culpabiliser, qu'on ne fait pas assez, etc. Vous savez, hein, voilà. Eh bien, je vais vous étonner, mais je ne vais pas parler de ça, ça me plaît. Je ne vais pas parler de ce qu'il faut faire, parce que le Seigneur, le plus important pour lui, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut être. Et c'est quand tu seras, quand tu prends possession de ton être, que ça va rejaillir à l'extérieur d'une manière tout à fait naturelle. Donc le Seigneur ne demande pas de faire, mais d'être. Vous êtes d'accord pour être ? Ouais ? On va aller plus loin, vous allez voir. Alors, nous avons donc, on va voir trois images donc, de cette mission de l'Église pour chacun d'entre nous, et qui ont été données par Jésus, et qui nous a transmis en héritage, hein, puisqu'il a dit, je m'en vais là-haut pour que vous fassiez le boulot, hein, avec l'aide de Dieu. Mais quand je dis faire le boulot, c'est être. Le Seigneur va vous demander d'être, partout où vous êtes. Alors, dans le prologue de Jean, Jésus dit, Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité, donc le terme qui est utilisé, c'est tabernaclé, c'est-à-dire l'image du tabernacle qui était donc l'endroit où Dieu était présent. Hein, il a tabernaclé parmi nous, d'accord, cette parole pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors quand on lit toute la Bible, quand on lit tous les évangiles, ben nous voyons comment Jésus était à l'égard des pécheurs, à l'égard des gens de mauvaise vie. Il les aimait. Et Dieu, Jésus, donc quand on voit toute sa vie, eh bien, voilà, nous devons donc être les imitateurs de Jésus. Quand Jésus était sur la terre, il était le point de rencontre entre Dieu et les hommes. Hein? Il a dit à ses disciples, « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu. » Alors il y a un truc qui m'a étonné, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont pas vu. « Et les anges de Dieu monter et descendre. » Moi, si j'avais écrit l'évangile, excusez-moi, j'aurais mis que les anges descendent, ils sont là-haut, ils descendent et montent. Non ? C'est normal, non ? Normalement, ils sont en haut, ils doivent descendre. Pourquoi ils montent ? Bonne question, hein ? Eh bien, parce qu'ils sont avec nous. Ils sont là pour accueillir nos prières, pour les faire monter au Seigneur. Ils sont là dans le travail que nous avons à mener. Et ils agissent pour notre bien. Alors, donc, je l'ai dit, hein, Jésus incarne donc en lui-même la présence de Dieu. Mais Jésus va plus loin. Qu'est-ce qu'il dit ? On va faire référence à ce que Norbert a partagé. Ne savez-vous pas que...
La suite du verset...
Que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tiens. Il s'en va. Et notre héritage, c'est quoi ? J'étais le point de rencontre entre Dieu et les hommes, maintenant, c'est vous le temple. Et sur vous, les anges vont monter et descendre. Nous sommes le temple de Dieu. C'est une parole extraordinaire. Bien sûr, conscient que le temple est fondé sur Jésus, le fondement. On a parlé donc ces dernières semaines aussi des pierres vivantes que nous sommes, qui doivent être vues des hommes. Vous savez, quand on regarde un monument, si vous regardez de loin un monument, vous ne voyez pas la pierre de fondement. Hein. Vous voyez les pierres qui sont dessus. C'est que quand on s'approche, hein, les gens qui viennent vers l'église, après qu'ils voient, ils s'aperçoivent, car oui, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ils sont fondés sur Jésus-Christ. Mais les gens, ce qu'ils voient en premier, c'est nous. C'est notre témoignage, c'est l'amour partagé. C'est la manifestation de la grâce de Dieu au milieu de nous. Donc le Seigneur nous demande de briller et d'être vu. Je crois que le Saint-Esprit est créatif. Et il peut susciter en nous des idées nouvelles. Donc je vous encourage à partager vos idées.
Excusez-moi, je n'ai pas compris.
Alors, je répète. Donc, comme il n'a pas compris, je disais tout simplement que le Saint-Esprit est des créatifs.
Mais Cyril n'a rien compris.
Bon. Ouais. Bon, on évangélise un peu, ouais, t'as raison. On n'a pas compris, c'est normal, t'es qu'une boîte. Hein? Bon, nous, on n'est pas des boîtes. Hein. On est des pierres vivantes. Ouais. Donc, je disais hein, qu'on peut avoir beaucoup d'idées et que ces idées sont formidables et qu'il faut les mettre en application. Bien sûr, si les idées engagent bien l'Église validée par le Conseil, hein, mais bon, mais en même temps. Dieu peut nous donner toutes sortes d'idées qui permettent justement donc à l'évangile de percer, à l'amour de se manifester encore plus. Donc on doit être preneur et on doit être créatif avec l'aide de l'Esprit Saint. Alors, ça c'est pour l'Église, elle doit être vue. Alors, il y a aussi, nous sommes, hein, vous êtes le temple du Saint-Esprit, mais il y a aussi cette parole, vous êtes. Nous sommes, tu es, le temple de l'Esprit Saint. Aussi de manière individuelle, donc l'héritage qu'il nous a donné, c'est de manifester la présence de Dieu. C'est de faire en sorte de comprendre que là où on est, les anges montent et descendent. Que là où on est, nous manifestons la présence de Dieu. Et si on est connecté, il se passe des choses. Partout où on est placé. Là, je vais m'adresser au patron. Hein. Les patrons, là, pareil, hein, ils manifestent la présence de Dieu, là, avec leurs employés. Les employés pour leurs patrons. On manifeste la présence de Dieu. Même sans s'en rendre compte. Hein. Moi, je me rappelle, bien avant d'avoir parlé du Seigneur, quand j'étais présentant de commerce, là, je vendais du matériel de bureau. Et les gens, ils sentaient que j'étais différent. Et le jour où j'ai dit que j'étais chrétien, ils se disaient « Ah, maintenant, ça y est, on comprend pourquoi t'es comme ça. » Voilà, donc les gens, on ne sait même pas hein, ce qu'on véhicule. Mais les gens le sentent. Hein ouais. Le médecin, par exemple, qui soigne, ben, c'est pareil, les patients, sans que la personne dit quoi que ce soit, ben, ils sentent qu'il y a quelque chose hein, qui se dégage, qui ne se dégage pas avec les autres. Donc, je suis le temple de Dieu pour mon voisinage. Mes amis, ma famille, ça on l'a dit, je suis le temple de Dieu, l'endroit où ils vont rencontrer Dieu. Hein, j'ai vu sur un film un jeune qui disait « Nous devrions être des rendez-vous divins ambulants. » Moi, ça me plaît, ça. Partout où on va, rendez-vous divins. Hein, on évangélise, hein, et puis Voilà. On prie, les gens sont touchés. Gloire à Dieu. Et au travail, c'est pareil. Hein, on prie et les gens sont touchés. Ouais. Dans l'endroit où nous sommes, eh bien, nous sommes le point de rencontre pour les hommes en même temps, vous voyez, pour qu'ils rencontrent Dieu. Et ça, on le fait dans toutes les paroles d'encouragement que nous pouvons donner, dans tous les actes d'amour, dans les prières, et ça, c'est un travail exaltant. Partout où nous sommes. Être en veille et se dire, tiens, qu'est-ce que tu attends de moi cette fois-ci? Vous savez que vous pouvez changer les environnements là où vous êtes, hein, c'est extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Tu vas à la boulangerie elle est différente après. Hein. Ben ouais. Moi j'ai vu ma boulangère, elle était malade, elle était guérie, je vous garantis qu'elle était différente après. Donc oui, je veux dire, c'est vous changez, c'est comme j'ai entendu parler d'un pasteur, il allait faire ses courses exprès dans un magasin sur les trucs bio un peu pas clair. Il priait dans le magasin en disant: j'installe la présence de Dieu. Il faisait tout le magasin comme ça. Puis un jour, le patron, il dit, écoutez, c'est quand même incroyable. Quand vous venez, on sent quelque chose, l'atmosphère est différente et tout. Donc, ouais, on fait une différence. C'est extraordinaire. Nous faisons une différence. Et Dieu manifeste, nous donne la possibilité de vivre ça. Ça, c'est la première image. Hein? Prendre conscience que nous sommes vraiment l'endroit où les gens vont pouvoir rencontrer Dieu par la manifestation de l'amour, par la manifestation de nos actes et de nos paroles. Deuxième image que j'aimerais utiliser, c'est la lumière. L'évangile de Jean nous présente Jésus comme étant la lumière. La lumière qui étant dans le monde éclaire tout homme. C'est beau, hein? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si on en reste à ce verset, gloire à Dieu. Tu es la lumière, tu éclaires ma vie, je vais mieux. On peut en rester là, et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il va un peu plus loin. Dans Matthieu, on peut lire encore l'héritage, vous voyez? Il a dit, je suis la lumière. Il s'en va, et après il nous dit, avant de partir bien sûr, hein, vous êtes la lumière du monde. Une lumière, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise, et qu'ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est quand même extraordinaire. Donc Dieu nous dit, en héritage, vous êtes la lumière. Et Dieu doit voir, et les hommes doivent voir nos œuvres. Hein. Et il est bon de réfléchir en tant que communauté sur les actions à mener pour que cette lumière se voit de plus en plus. Alors c'est vrai qu'on vit des choses extraordinaires, il y a eu la soirée du cœur, la maison des parents qui nous permet de faire briller cette lumière. Mais nous devons encore nous poser la question, qu'est-ce que tu peux faire pour que l'influence de l'Église se montre encore davantage pour la ville et d'entrer dans des œuvres nouvelles? Moi j'ai envie, j'ai soif de ces œuvres nouvelles. Et ça commence, et je me demande ce qui... Bon, je suis curieux de savoir ce qu'il va me faire faire encore, hein. Et puis ce qu'il va nous faire faire à nous, hein, c'est formidable. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a un danger qui guette les chrétiens, et ça a été aussi le mien. Vous voyez, on peut être tellement bien entre nous qu'on finit par avoir un réseau de chrétiens autour de nous. Quoi. Et moi, je me suis aperçu, au bout d'un certain temps, c'était bien, on était souvent entre chrétiens. Quoi. Le seul moment où je voyais des gens évangélisés, c'était dans le cours Alpha, et encore là, dans le parcours, je ne faisais pas grand-chose, hein. Moi, je recueillais les gens les gens qui étaient accueillis par les autres. Hein, n'est-ce pas, Martine? Bon, ou Jean-Marie, hein. Bon, au départ, je l'avais cool, hein. Je me disais, bon, ils amènent les gens, moi, j'ai plus qu'à m'en occuper, quoi. On les amène au Seigneur et gloire à Dieu, quoi. Et je faisais plus grand-chose, hein. Et oui. jusqu'à ce que le Seigneur me reprenne. Hein. Mais bon, mais c'est vrai, c'est très facile d'entrer dans le travail. Mais c'est bien, c'est aussi l'Église de travailler, d'entrer dans le travail que, de ce que les autres font. Mais en même temps, eh ben, ça me... Voilà. Hein. C'était confortable. Bon, et le Seigneur, ben, il m'a bougé. Hein. Voilà. Et puis... Et en me bougeant, ben, il m'a amené à... Eh ben, à faire des choses nouvelles. Donc, l'importance pour nous, en tant que chrétiens, d'étendre nos relations. Quand on est dans le travail, c'est bien, maintenant qu'on est en retraite, c'est plus difficile. Hein. Mais ce que je veux dire, donc, au niveau de nos voisins, par exemple, pendant 20 ans, on a prié pour nos voisins. Mais quand je dis prier, soyons modestes, hein, quand on y pensait. Hein. On ne va pas fanfaronner. Hein. Bon. Mais pendant 20 ans, on y pensait, quoi. De temps en temps, quand j'étais à l'escalier, une fois, je me suis planté devant chaque porte en disant « Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. » Quoi. Mais 20 ans, rien. Rien. On a fait des invitations pour Alpha, rien. Et puis, pour dire qu'il faut s'engager dans plein de choses, il y a eu la fête des voisins, personne ne voulait l'organiser. Alors on s'est dit avec Corinne, tiens, pourquoi on ne ferait pas la fête des voisins? Eh bien, alors en bas de chez nous, on a installé une table et tout, ça a ouvert la porte. Ça a changé la relation dans le voisinage. Et les gens se sont ouverts, et comme ça, on a pu avoir des voisins qui ont fait le parcours Alpha, qui ont été touchés par le Seigneur. Donc, pour dire que voilà, donc l'importance pour nous de garder des relations. Les mamans, les jeunes mamans à la sortie des écoles avec les autres mamans, voilà, dans les associations de parents d'élèves, dans plein de choses, dans le club de sport, tiens. Il y en a qui font du sport dans les clubs. Ben, c'est bien, je veux dire, ça donne des occasions de témoigner extraordinaires. Quelquefois, ils se font un claquage, là, ils ont mal. Tiens, ben voilà. Écoute, je suis chrétien, tu veux que je fasse pour toi, là? Puis le mec, il a plus mal, il dit, tiens. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est aussi simple que ça. Et oui, ben vous avez l'air de... Mais c'est ça. Mais si on ne prie pas, on ne voit rien. Prenez le risque de prier et vous verrez. Alors, toutes les personnes ne seront pas forcément guéries, peu importe, mais ils vous diront merci parce que vous avez prié pour eux. Donc, j'ai jamais vu des gens frustrés quand j'ai prié pour eux. Ils ont été bénis parce qu'on s'est préoccupé d'eux. Donc, prenons des risques. Voilà, hein, il s'est fait mal, mais attends, il posait la main au nom de Jésus, voilà, le gars est guéri, après tu as la porte ouverte pour le témoignage, c'est tout, voilà. Donc ça c'est aussi les œuvres nouvelles. Donc je vous encourage à permettre que vous ayez une vie sociale, voilà, et que cette vie vous permette d'avoir du relationnel, parce que ça va être important dans l'activité dont on va parler un peu plus tard, d'avoir de la relation, parce que sinon on ne peut rien faire. Donc, notre lumière doit être vue par tous les hommes. Alors, on va terminer par la troisième image. C'est l'eau. C'est encore en Jean. Le dernier jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alors, il faut savoir que le dernier jour de la fête, le sacrificateur, c'est souvent un sacrificateur qui faisait ça. Hein. Tu me dis, si je ne me trompe pas, il prenait donc un vase d'or, il mettait de l'eau, il se mettait face à la vallée du Cédron. Alors, il faut dire qu'à l'époque, la vallée du Cédron, c'était la vallée des immondices, où il y avait toutes les saletés. Hein. Puis il versait l'eau comme ça. En préfiguration, vous connaissez donc la vision d'Ézéchiel, où il y a le fleuve qui sort du temple, qui est l'image du Christ. Hein. Et partout où ce fleuve va, il y a la vie. Sur les bords, il y a les arbres. Hein, il y a la guérison de son et puis voilà, partout où le fleuve passe, il y a la vie, il y a les poissons qui renaissent, et ce fleuve, il tombe dans la mer morte, qui est l'image vraiment de, il n'y a rien, c'est du sel, et alors là la vie vient dans d'accord, donc et en symbole voilà, il fait ça. Ouais, mais Jésus, il nous a laissé un héritage, encore une fois, il est l'eau qui étanche notre soif. Bien. Mais il nous demande quelque chose d'autre. C'est que notre vie déborde. Alors, je vais faire une petite expérience. Je pose le micro. Alors, voilà. Elle est un peu sale, hein, mais c'est ce que nous sommes avant d'avoir connu Jésus. Hein. Elle est sale, mais alors, elle est dure.
Casse pas le micro.
Elle est dure, elle est sèche. Ça, c'est nous. Alors, il y a des chrétiens. Il ne faut pas que je mouille le micro parce que je vais être électrocuté.
Voilà. Donc, rappelez-toi. Alors, regardez. L'éponge est sèche. Je mets un peu d'eau.
Elle est toujours sèche.
Bon. Là, elle se ramollit, hein. Très bien. Oh, elle n'est pas encore assez molle. On va encore en mettre un peu, hein. Voilà. Voilà, donc. Voilà. Le Seigneur, il peut être comme ça dans notre vie, hein. Juste assez pour que je me sente bien. Non ? Quoi ? La vie chrétienne, c'est ça, juste assez pour que je me sente bien. Seigneur, je te loue pour ta présence. Voilà, tu prends soin de mes petits bobos, de mon corps aux pieds. Voilà, je suis bien. C'est, hein? C'est souvent ce qu'on est, nous. Hein? Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut?
Déborder.
Regardez. On va mettre de l'eau. Voilà. Regardez ça. Il n'y en a pas encore assez. Allez. Regardez. Oh là là, elle souhaite. Regardez. Oh là là. Regardez, il y en a partout là. Il y en a partout. Vous avez compris la leçon ? Eh ! Oh là là ! Oh là là ! Il veut qu'on soit comme ça. Hein. À mon travail, partout. Regardez. Pétard, j'ai pas d'effort à faire. Hein. Vous avez vu ? Non, je vais la mettre là. Donc, on comprend plus ce qu'on voit, mais j'ai l'habitude des châtaignes comme ça. Quand je jouais de la guitare électrique, souvent, c'était sur les doigts, sur la bouche. Je suis jamais mort. Ah, mais j'en ai pris des châtaignes. Quand j'étais jeune, au micro, mec. C'était pas le Saint-Esprit, c'était... Voilà. Quand on rit, le message passe mieux. Mais vous avez compris le principe. Hein. Jésus dit, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, comme le dit l'Écriture. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, que ces fleuves d'eau vive coulent. Alors pour les gens qui pensent que l'évangélisation, c'est difficile, non. Si tu es plein du Saint-Esprit, pas plein, hein, si tu es plein... Mais ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'on peut être plein tous les jours. On peut être plein tous les jours, sans gêner personne, en conduisant bien, sans... Voilà. Et le Seigneur nous demande d'être rempli de sa présence. Bon. Ben voilà, oui, tu vois. Oui, ça fait rire, mais c'est vrai. Là, c'est le résultat est même. Je veux dire, dans la vie qu'on va apporter... Donc le Seigneur veut que nous soyons vraiment une éponge imbibée, et il veut vraiment que nous soyons habités de l'Esprit Saint et à longueur de tout le temps, quoi. Alors, être rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que c'est planant tout le temps. Hein. C'est la conscience de la présence de Dieu qui crée des désirs nouveaux, qui crée des pensées nouvelles, qui nous amène sur un chemin dans lequel on n'a pas encore été. Il est créatif. Donc on sent qu'il crée des choses en nous. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. C'est pas simplement les petits oiseaux. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des moments où sa présence nous fait rire, nous fait pleurer, nous fait trembler. Et puis, parce qu'il est Dieu, hein, je veux dire. Quand on contient Dieu en soi, c'est Dieu, hein. Alors si on réagit de manière différente, c'est pas grave, faut pas avoir peur. Donc Dieu nous encourage à être rempli. Alors est-ce que vous voulez être rempli? Oui, hein? Alors on va se lever. Je vais demander à la louange de venir et de chanter. C'est vrai que nous avons besoin de toi, Seigneur. Besoin de ta présence, de ta puissance sur nous. Pour être de meilleurs témoins et puis pour être, Seigneur, simplement pour être. Pour être. Et dégouliner de ta présence.